Chapitre 11. Lui pardonner ? Jamais ! Maudite soit plutôt ma tribu ! Shakespeare, Le Marchand de Venise. Magua avait choisi pour la halte une de ces collines escarpées, en forme de pyramide, et semblables à des élévations artificielles qu'on rencontre si fréquemment dans les vallées des États-Unis. Cette espèce de tumulus était haut et en pente rapide. Le sommet, comme d'habitude, en était aplati et l'un des versants plus irréguliers qu'on ne les voit en général. Il n'avait pour un lieu de repos d'autre avantage apparent que son escarpement et sa forme, qui rendaient la défense facile et la surprise presque impossible. Comme Hayward ne comptait guère sur une délivrance que le temps et la distance rendaient de plus en plus problématiques, il regardait ces petites circonstances d'un œil indifférent, s'occupant uniquement de ses compagnes et cherchant à les consoler. On laissa les chevaux paître la rare verdure de cette colline et ce qui restait de provisions de bouche fut étalé devant les prisonniers, assis à l'ombre d'un bouleau qui étendait sa ramure en éventail au-dessus de leur tête. Malgré la rapidité du voyage, un des Indiens avait trouvé l'occasion de tuer à coups de flèche un faon égaré et avait porté patiemment l'animal sur ses épaules jusqu'au lieu de la halte. Sans le secours de l'art culinaire, il se gorgea aussitôt de cette nourriture, d'une digestion facile, et ses compagnons en firent autant, à l'exception du renard subtil qui, demeuré seul à l'écart, paraissait plongé dans de sérieuses réflexions. Cette abstinence, si remarquable chez un Indien, attira l'attention d'Hayward. Persuadé que le Huron méditait un moyen d'éluder la vigilance des naturels afin d'obtenir la récompense promise, désirant en outre aider de ses conseils les plans qu'il pourrait former et ajouter encore à la force de la tentation, il se leva et, tout en paraissant errer au hasard, s'arrêta près de l'endroit où le guide était assis. « Magua n'a-t-il pas eu assez longtemps le soleil en face pour n'avoir plus rien à craindre des Canadiens ?» lui demanda-t-il comme s'ils étaient parfaitement d'accord. « Le chef de William Henry ne sera-t-il pas plus satisfait de revoir ses filles avant qu'une autre nuit ait endurci son cœur contre leur perte et les rendu moins libérales dans ses dons ?»« Matin ou soir, » riposta froidement l'Indien, « les visages pâles en aiment-ils moins leurs enfants ?»« Non, certes, » reprit Hayward, se hâtant de réparer l'erreur qu'il appréhendait d'avoir commise. L'homme blanc peut oublier, et oublie souvent, en effet, les tombeaux de ses pères. Il cesse quelquefois de se rappeler ceux qu'il devrait aimer et qu'il a promis d'aimer toujours. Mais la tendresse d'un père pour son enfant ne s'éteint jamais qu'avec lui. Le cœur du chef à tête blanche est-il donc si tendre, et pensera-t-il aux enfants que ses femmes lui ont donnés ? Il est bien dur pour ses guerriers et ses yeux sont de pierre. Les oisifs et les méchants se plaignent de sa sévérité, mais il est juste et humain pour ceux qui se conduisent en braves. J'ai connu beaucoup de parents affectueux, mais jamais un père plus dévoué. Tu as vu la tête blanche au milieu de ses guerriers, Magua, mais moi, j'ai vu ses yeux se remplir de larmes en parlant des enfants qui sont maintenant dans ton pouvoir. »
Duncan s'interrompit, car il ne savait comment interpréter l'expression singulière qui contracta les traits de l'Indien attentif. D'abord, on eût dit qu'il éprouvait un sentiment de joie avide à l'idée de la récompense promise, dont l'amour paternel devait lui assurer la possession. Puis sa joie revêtit un caractère de férocité tel qu'il était impossible de ne pas appréhender qu'elle eût sa source dans quelque passion plus sinistre que la cupidité.
« Va !» dit le Huron, en réprimant sur le champ toute marque extérieure d'émotion. « Va dire à la fille aux cheveux noirs que Magua l'attend pour lui parler. Le père se souviendra de ce que l'enfant aura promis. »
Duncan vit dans ses paroles le désir d'avoir une sécurité de plus pour la récompense stipulée. Il s'éloigna à regret, retourna près du bouleau sous lequel les sœurs se délassaient de leur fatigue et transmit à Cora le message de leur guide.
« Vous savez quels sont les appétits d'un Indien ?» lui dit-il en la conduisant vers l'endroit où elle était attendue. N'épargnez pas les offres de poudre et de couverture. Cependant, les gens de sa sorte préfèrent à tout les liqueurs spiritueuses. Il ne serait pas mal non plus d'y ajouter quelques dons de votre main avec cette grâce qui vous est si naturelle. Ne perdez pas ceci de vue, Cora. De l'adresse et de la présence d'esprit que vous saurez mettre en œuvre vont dépendre jusqu'à un certain point votre vie et celle d'Alice.
Et la vôtre, Hayward ?
La mienne est peu de chose. Elle appartient déjà à mon roi et au premier ennemi qui pourra la prendre. Je n'ai point de père qui regrette mon absence, et bien peu d'amis pour pleurer une mort que j'ai recherchée comme un bonheur avec toute l'ardeur de la jeunesse. Mais, chut, nous voici arrivés. Magua, la personne à laquelle tu désires parler est devant toi. »
L'Indien se leva lentement et demeura quelque temps silencieux et immobile. Puis il fit signe à Hayward de s'éloigner.
« Quand le Huron parle à des femmes, dit-il froidement, sa tribu se bouche les oreilles. »
Duncan hésitant à obéir, Cora lui dit avec un calme sourire, « Il faut quitter la place. La délicatesse vous en fait un devoir. Allez retrouver Alice et faites en sorte que ce nouveau rayon d'espoir lui rende le courage. » Elle attendit qu'il fût parti. Alors, se tournant vers Magua avec toute la dignité de son sexe, et dans l'attitude et dans la voix, elle ajouta « Que veut dire le renard à la fille de Munro ?»«
Écoute, » répondit l'Indien,
et sans doute pour commander plus fortement son attention, il lui saisit le bras, étreinte passagère dont elle se dégagea par un mouvement ferme et calme à la fois.
Magua était un chef et un guerrier parmi les Hurons rouges des lacs. Il avait vu les soleils de 20 étés fondre dans les rivières, les neiges de 20 hivers avant de rencontrer un visage pâle, et Magua était heureux. Alors ses pères du Canada vinrent dans les forêts et lui apprirent à boire l'eau de feu, et il devint un vaurien. Les Hurons le chassèrent loin des tombeaux de ses pères, comme ils auraient chassé un bison. Il erra le long des lacs jusqu'à ce qu'il arrivât à la ville du Canon. Là, il vivait de chasse et de pêche, mais on le repoussa encore dans les bois, au milieu de ses ennemis. Le chef qui était né Huron devint enfin un guerrier parmi les Mohawks.
Il s'arrêta pour réprimer les passions dont la flamme brûlante se réveillait en lui au souvenir de ses prétendues injures. « J'avais, dit Cora, quelques connaissances de cette histoire. »«
Était-ce la faute du renard ? » reprit-il. « S'il n'avait pas une tête de rocher, qui lui a versé l'eau de feu ? Qui a fait de lui un misérable ? C'est un visage pâle, l'homme de ta couleur. »
« Et moi ? Est-ce ma faute ? S'il existe des êtres sans principe dont la couleur ressemble à la mienne, dois-je répondre pour eux ? » ?»«
Non. Magua est un homme et non pas un fou. Les gens qui te ressemblent n'ouvrent jamais leurs lèvres au liquide brûlant. Le grand esprit t'a donné la sagesse en partage. »
« Que puis-je donc avoir de commun avec tes malheurs, pour ne pas dire tes fautes ? » ?»«
Écoute encore. Quand les Français et les Anglais déterrèrent la hache, le renard prit son poste de guerre dans les rangs des Mohawks et marcha contre sa propre nation. Les visages pâles ont repoussé les peaux rouges de leur terrain de chasse, et si maintenant ceux-ci combattent entre eux, c'est un homme blanc qui les commande. À notre tête était ton père, le vieux chef de l'Oricon. Il disait aux Mohawks, « Faites ceci et cela », et on lui obéissait. Il établit par une loi que, si un Indien buvait de l'eau de feu et entrait ensuite dans les wigwams de toile de ses guerriers, il ne serait pas oublié. Magua eut la folie d'ouvrir la bouche, et la liqueur brûlante l'entraîna dans la cabane de Munro. Que fit la tête blanche ? Que sa fille le dise ?
Il tint parole et rendit justice en punissant le coupable.
Justice,
répéta l'Indien en jetant sur l'intrépide Cora un regard oblique où se peignait la soif des représailles.
Est-ce juste de faire le mal et d'en punir les autres ? Magua n'était pas dans son bon sens. C'est l'eau de feu qui avait parlé et agi à sa place. Mais Munro refusa de le croire. En présence de tous les guerriers au visage pâle, le chef Huron fut saisi, attaché au poteau et battu de verges comme un chien.
Force fut à Cora de garder le silence. Dans l'impuissance où elle se trouvait de rendre excusable aux yeux d'un sauvage, cet acte d'une discipline peut être trop rigoureuse.
« Regarde !»
continua Magua, en écartant le léger tissu de calicot qui recouvrait à demi sa poitrine tatouée.
« Voici des cicatrices faites par des couteaux et des balles. Un guerrier peut les montrer avec orgueil à sa nation. » Mais la tête blanche a laissé sur le dos du chef Huron des marques qu'il est obligé de cacher, comme le ferait une femme sous cette étoffe peinte des blancs.
« Je croyais, répondit Cora, qu'un guerrier indien était patient et que son esprit demeurait insensible aux souffrances de son corps. »
Quand les Chippeways lièrent Magua au poteau et lui firent cette balafre,
reprit-il en posant fièrement le doigt sur une large cicatrice qui sillonnait sa poitrine.
Le Huron leur rit à la face en disant que des femmes seules portaient de si faibles coups. Son esprit planait alors dans les nuages. Mais en recevant les coups de Monroe, son esprit était dans le bouleau qui le frappait. L'esprit d'un Huron n'est jamais ivre, il se souvient toujours.
Mais on peut l'apaiser. Si mon père a été injuste à ton égard, montre-lui qu'un Indien sait pardonner une injure et ramène-lui ses filles. Le major Hayward t'a offert. » Magua secoua la tête comme pour lui défendre de répéter des propositions qu'il méprisait. Quelle cruelle déception d'apprendre que le trop généreux Duncan avait été la dupe d'un rusé sauvage. « Alors, dit-elle, que veux-tu ? »
« Ce qui plaît à un Huron, rendre le bien pour le bien, le mal pour le mal. »
C'est-à-dire venger le mal que t'a fait Monroe sur ses filles sans défense? Il serait plus courageux d'aller le trouver et de lui demander la réparation d'un guerrier?
Les armes des visages pâles sont longues et leurs couteaux bien affilés,
répondit le sauvage avec un rire mauvais.
Le renard irait-il chercher la tête blanche au milieu des mousquets de ses guerriers lorsqu'il tient son esprit entre les mains?
Quelle est ton intention, Magua? Exprime-la clairement, dit Cora, en s'efforçant de conserver son sang-froid. Est-ce de nous emmener prisonnières dans les bois ou de nous infliger des maux plus grands encore? N'y a-t-il donc aucune récompense, aucun moyen qui puisse expier l'injure et désarmer ton cœur? Du moins, mets ma pauvre sœur en liberté et fais tomber sur moi ta colère. Échange-la contre des richesses. Une seule victime doit suffire à ta vengeance. La perte de ces deux filles conduirait le vieillard au tombeau, et que deviendrait alors la jouissance du renard ?
Écoute, reprit l'Indien, la fille aux yeux bleus pourra retourner à l'Orican et rapporter au vieux chef ce qui s'est passé, si la fille aux cheveux noirs veut jurer par le grand esprit de ses pères de ne pas dire mensonge.
Que faut-il que je promette ? Demanda Cora, qui, par la dignité de son maintien, conservait encore quelque ascendant sur les passions indomptables de l'Indien. « Parle !»
Lorsque Magua quitta sa nation, reprit ce dernier, on donna sa femme à un autre chef. Maintenant les Hurons sont ses amis et il va revenir près des tombeaux de ses pères, sur les rives du Grand Lac. Que la fille du chef anglais le suive et qu'elle habite pour toujours dans son wigwam.
Quelque révoltante que fût pour Cora une telle proposition, elle garda, malgré son dégoût, assez d'empire sur elle-même pour y répondre sans trahir la moindre faiblesse. « Et quel plaisir trouverait Magua, dit-elle, à partager sa cabane avec une femme qu'il n'aimerait pas, d'une nation et d'une couleur différente de la sienne. Mieux vaudrait prendre Lord Monroe et, avec les dons de sa munificence, acheter le cœur d'une jeune Huronne. » L'Indien resta près d'une minute sans répondre, mais la manière dont il la regarda obligea la jeune fille à baisser les yeux, car il lui sembla avoir rencontré pour la première fois des regards qu'une femme chaste ne saurait soutenir. Pendant qu'elle sentait son sang se glacer, par la crainte que quelque proposition plus révoltante que la première ne vînt blesser son oreille, Magua dit avec un accent de perversité inouïe,
alors que les coups de verge écorchaient son dos, le Huron savait où trouver la femme qui en supporterait la souffrance. La fille de Monroe puiserait son eau, cultiverait son grain et ferait cuire sa venaison. Le corps de la tête blanche dormirait au milieu des canons, mais son cœur, Le renard le tiendrait sous son couteau.
« Monstre, tu mérites bien ton nom de traître !» s'écria Cora dans une explosion d'indignation filiale qu'elle ne put comprimer. « Il n'y a qu'un démon qui puisse méditer une telle vengeance, mais tu as trop présumé de ton pouvoir. C'est le cœur de Manroe que tu veux tenir? Eh bien, tu verras qu'il est en état de braver toute ta perversité !»
Magua répondit à ce défi audacieux par un sourire infernal qui indiquait une résolution immuable, et pour mettre un terme à leur entretien, il lui fit signe de se retirer. Cora, presque au regret d'avoir amené un tel dénouement par trop de précipitation, était sur le point de s'éloigner, car déjà Magua l'avait quitté pour aller rejoindre ses voraces compagnons. Hayward courut au-devant de la jeune fille et lui demanda le résultat d'une conversation qu'il avait surveillée de loin avec anxiété. Mais dans la crainte d'alarmer Alice, elle évita de faire une réponse directe, laissant seulement lire dans ses traits le mauvais succès de son entrevue et suivant d'un œil inquiet les moindres mouvements de ses gardiens. Aux questions pressantes de sa sœur sur le sort qui leur était réservé, elle montra du geste le groupe des Indiens avec une agitation dont elle n'était pas maîtresse et, prenant Alice dans ses bras, « Là, là !» murmura-t-elle. « Tu peux lire notre destin sur leur visage. Nous allons voir. » Le geste et la voix entrecoupée de Cora firent plus d'impression que ses paroles, et aussitôt l'attention générale se porta sur le lieu où la sienne était fixée avec une anxiété que ne justifiait que trop l'importance de la question qui allait se décider. Cependant, Magua avait rejoint les sauvages qui, après avoir terminé leur dégoûtant festin, s'étaient étendus à terre comme des animaux repus. Il se mit à les haranguer avec toute la dignité d'un chef indien. Au premier mot qu'il prononça, ses auditeurs se levèrent dans l'attitude d'une attention respectueuse. Comme le Huron s'exprimait dans sa langue natale, les prisonniers, que la défiance de leur gardien tenait à la portée de leur tomahawk, ne pouvaient comprendre que d'une manière conjecturale le sujet de son discours, d'après ces gestes significatifs dont l'éloquence d'un Indien est toujours accompagnée. D'abord l'action et le langage de Magua eurent un caractère de calme et de modération. Quand il eut réussi à éveiller suffisamment l'attention de ses compagnons, il étendit si souvent la main dans la direction des grands lacs qu'Hayward en conclut qu'il leur parlait du pays de leurs aïeux et de leurs tribus lointaines. Les auditeurs laissaient échapper des signes fréquents d'approbation et, en répétant leur ouf expressif, semblaient faire tacitement l'éloge de l'orateur. Le renard était trop habile pour négliger cet avantage. Il parla alors de la route longue et pénible qu'ils avaient faite en quittant leur vaste territoire de chasse et leurs heureux villages pour venir combattre les ennemis de leur père du Canada. Il fit l'énumération des guerriers de leur parti, exalta leurs mérites divers, les services nombreux qu'ils avaient rendus à la nation, leurs blessures et le nombre des chevelures qu'ils avaient enlevées. Toutes les fois qu'ils faisaient allusion à quelqu'un de ceux qui étaient présents, et le subtil Indien n'eut garde d'en oublier aucun, un éclair de joie orgueilleuse illuminait le visage de l'intéressé, qui ne manquait pas de confirmer par un applaudissement la vérité des paroles qu'on venait d'entendre. Alors la voix de l'orateur baissa et perdit l'accent animé et triomphant dont il avait célébré leurs exploits et leurs victoires. Il décrivit la cataracte de Glenn, la position imprenable de cette île de rochers avec ses cavernes, ses courants rapides et ses tourbillons. Il prononça le nom de la longue carabine et attendit, avant de poursuivre, que le dernier écho de la forêt eût répété le long hurlement de deuil dont fut accueilli ce nom abhorré. Il désigna le jeune officier captif et rappela le souvenir d'un guerrier renommé que sa main avait précipité dans l'abîme. Il peignit ensuite la mort de cet autre guerrier qui, suspendu entre le ciel et la terre, avait offert à tous un spectacle si horrible. Il alla plus loin, il renouvela l'effroi de ses auditeurs en représentant à leurs yeux sur les branches d'un arbre cette scène poignante, la situation périlleuse de l'infortuné, son héroïsme et sa mort. Enfin, il raconta la manière dont chacun de leurs amis avait succombé, n'oubliant jamais de faire un pompeux étalage de son courage et de ses vertus. Ce récit terminé, sa voix changea de nouveau et prit un accent guttural,
doux, plaintif et harmonieux. Il parla des femmes et des enfants de ceux qui avaient péri. Il peignit leur indigence, leur détresse physique et morale, leur injure laissée sans vengeance. Alors, montant sa voix sur un ton d'énergie terrible, il ajouta
« Les Hurons sont-ils des chiens pour endurer tant d'outrages ? Qui osera dire à la femme de Ménougoua que les poissons ont sa chevelure et que sa nation ne l'a pas vengée ? Qui osera aller à la rencontre de la mère de Wassawatimi, cette femme si fière, avec des mains qui ne seront point teintes de sang ? Que dirons-nous aux vieillards lorsqu'ils nous demanderont des chevelures et que nous n'aurons pas un seul cheveu de la tête d'un blanc à leur faire voir ? Les femmes nous montreront au doigt. Il y a une tache noire sur le nom des Hurons, et il faut du sang pour la laver. »
Dès lors, sa voix se perdit au milieu des cris de fureur qui firent retentir l'air, comme si, au lieu de quelques individus, la nation entière eût été réunie sur cette colline. Pendant qu'il parlait, ceux qui étaient le plus intéressés au résultat de son discours pouvaient suivre clairement les progrès de l'orateur dans les traits de ceux auxquels il s'adressait. Il s'était associé à ses récits de tristesse et de deuil par la sympathie et l'affliction, à ses assertions par des gestes d'assentiment, à la peinture de leur triomphe par une exaltation turbulente. Quand il parla de courage, leur contenance était ferme et résolue. Quand il rappela leurs injures, la fureur s'alluma dans leurs yeux. Quand il fit allusion aux railleries de leurs femmes, ils baissèrent la tête de honte. Mais au mot de vengeance, il toucha une corde qui ne manque jamais de vibrer dans le cœur d'un Indien. À peine leur eut-il dit que cette vengeance était en leur pouvoir, que tous se levèrent comme un seul homme, poussèrent un cri de rage et coururent ensemble vers les prisonniers en brandissant leurs couteaux et tomahawks. Hayward se précipita entre les deux sœurs et ses furieux. Il saisit le premier qui s'avança avec une force qui tenait du désespoir et qui, pour un instant, réprima sa violence. Cette résistance inattendue donna à Magua le temps d'interposer son autorité et, par ses exclamations rapides, ses gestes animés, il attira de nouveau à lui l'attention des sauvages. Habile à manier la parole, il réussit à les détourner de toute action immédiate et les exhorta à prolonger les souffrances de leurs victimes. Sa proposition fut accueillie par des acclamations et exécutée avec la rapidité de la pensée. Deux guerriers robustes se jetèrent à la fois sur Hayward, tandis qu'un autre s'assurait du maître de chant beaucoup moins dangereux. Néanmoins, aucun des deux captifs ne céda avant d'avoir opposé une résistance acharnée, bien qu'inutile. David lui-même étendit son assaillant par terre, et ce ne fut qu'après sa défaite que les Indiens, réunissant leurs efforts, vinrent à bout du jeune officier. Il fut garrotté et attaché au tronc du sapin dont les branches avaient servi au renard pour peindre au vif la chute du Huron dans la cascade. Lorsque Duncan eut repris son sang-froid, il eut la douloureuse certitude que le même sort les attendait tous. À sa droite était Cora, liée comme lui, pâle et agitée, mais dont le regard brillant ne perdait aucun des mouvements de la troupe. À sa gauche, les liens qui enchaînaient Alice à un autre arbre lui prêtaient un secours que ses membres délicats, prêts à s'affaisser, n'avaient pas la force de lui donner. Ses mains étaient croisées devant elle comme pour prier, mais au lieu de lever les yeux vers le ciel, qui seul pouvait les délivrer, elle les fixait malgré elle sur Duncan avec une expression de faiblesse enfantine. David avait combattu, et cette circonstance, toute nouvelle pour lui, le rendait muet, occupé à réfléchir sur la convenance de sa conduite. La vengeance des Hurons avait pris une direction nouvelle, et il se préparait à l'exécuter avec tous les raffinements de barbarie que leur avait transmis une pratique de plusieurs siècles. Les uns apprêtaient le bois du bûcher. Celui-ci taillait des chevilles de pin pour les enfoncer toutes brûlantes dans la chair des condamnés. D'autres inclinaient vers la terre deux jeunes arbres voisins pour y attacher Hayward par les bras et leur laisser ensuite reprendre la direction verticale. Mais il fallait à la haine de Magua des jouissances autrement cruelles. Pendant que la fureur brutale de ses compagnons préparait ses moyens connus de torture vulgaire sous les yeux mêmes de leurs victimes, Il s'approcha de Cora et, lui faisant remarquer avec un air de méchanceté noire le destin qui l'attendait,
« Eh bien,
ajouta-t-il,
que dit à présent la fille de Munro ? Sa tête est trop précieuse pour trouver un oreiller dans le wigwam du renard ? Aime-t-elle mieux qu'elle roule jusqu'au bas de la colline pour servir de jouet au loup ? Son sein ne veut pas nourrir les enfants d'un Huron ? Elle verra les Hurons cracher dessus. » « Je n'ai pas compris,
dit Hayward étonné.
Que signifie cela ?
Rien, répondit-elle avec douceur et fermeté. C'est un sauvage, un être ignorant et barbare, qui ne sait ce qu'il fait. Demandons à Dieu en mourant qu'il se repente et qu'il ait son pardon.
Mon pardon,
répéta Magua, se méprenant sur le sens de ses paroles.
La mémoire d'un Indien est plus longue que la main des visages pâles, sa merci plus courte que leur justice. Réponds, enverrai-je la fille aux cheveux blonds à son père, et veux-tu suivre Magua au grand lac pour porter son eau et préparer son grain ?
Cora lui fit signe de se retirer avec un sentiment de dégoût qu'elle ne put retenir.
« Laisse-moi,
dit-elle d'un ton solennel qui imposa un instant à ce barbare. Tu mêles de l'amertume à mes prières, et tu te places entre mon Dieu et moi. » L'impression qu'elle avait produite sur Magua ne fut pas de longue durée. Il reprit en montrant Alice avec une ironie insultante.
« Vois, l'enfant pleure. Elle est bien jeune pour mourir. Il faut la rendre à Munro pour peigner ses cheveux blancs et conserver la vie dans le cœur du vieillard. »
Cora leva les yeux sur sa jeune sœur et rencontra son regard suppliant qui trahissait l'amour de la vie.
« Que dit-il, chère Cora ? »
demanda la voix tremblante d'Alice.
« N'a-t-il pas parlé de me renvoyer à notre père ?»
Après l'avoir regardé fixement, l'âme en proie à des émotions contradictoires, Cora lui répondit, et sa voix pleine et sonore prit une expression de tendresse presque maternelle. « Alice, le Huron nous offre la vie à toutes deux, dit-elle. Il fait plus encore. Il offre de vous rendre, ainsi que notre admirable Duncan, à nos amis, à notre père, à notre malheureux père qui pleure l'absence de ses enfants. Si j'abaisse ma fierté rebelle, mon orgueil inflexible, jusqu'à consentir... » La voix lui manqua, et joignant les mains, elle regarda le ciel, comme si, dans sa détresse, elle eût imploré le secours de la sagesse infinie.
« Achève ! » s'écria Alice. « Consentir à quoi, ma chère Cora ? Oh, s'il s'était adressé à moi, pour te sauver, pour consoler notre vieux père, pour délivrer Duncan, avec quel bonheur je consentirais à mourir ?»«
Mourir ? » répéta Cora d'un accent plus ferme. « Cela est facile, mais l'alternative le serait moins. Il exige... » ajouta-t-elle en baissant la voix et toute honteuse de révéler une proposition si dégradante. « Il exige que je le suive au désert, que j'aille habiter chez les Hurons, que j'y demeure, en un mot que je devienne sa femme. Parle à présent, mon Alice, fille de mon cœur, sœur de mon amour, et vous aussi, Major Hayward, aidez ma faible raison de vos conseils. Dois-je racheter la vie par un tel sacrifice ? Alice, et vous, Duncan, consentez-vous à la tenir de moi à ce prix ? Répondez, disposez tous deux de moi, car je vous appartiens entièrement.
« Moi, y consentir ? » s'écria le jeune homme indigné. « Cora, Cora, c'est se jouer de notre misère. Ne parlez plus de cette abominable alternative. La seule pensée en est plus horrible que mille morts. »
« Je m'attendais à cette réponse. »
reprit Cora, le teint brillant et les yeux pleins d'éclairs.
« Et mon Alice, que dit-elle ? Pour la sauver, je me soumettrai à tout sans murmure. »
Hayward et Cora écoutaient dans une incertitude pénible. Aucune réponse ne se fit entendre. La question de sa sœur semblait avoir foudroyé Alice. Tout son être frêle et sensible s'était replié sur lui-même. Les bras pendants, les doigts agités de légères convulsions, la tête penchée sur son sein, elle restait comme suspendue à l'arbre, gracieuse et touchante image de la délicatesse blessée de son sexe. Sous cette défaillance physique luttait pourtant la conscience. On le vit bien lorsqu'elle revint à elle-même.
Elle secoua la tête en signe de désapprobation insurmontable. Ses traits se ranimèrent et le sentiment qui l'oppressait mit une flamme dans son regard. Alors, elle trouva la force de murmurer. « Non, non, non. Plutôt mourir comme nous avons vécu, ensemble. »«
Meurs donc !»
s'écria Magua en grinçant des dents avec une rage qu'il n'avait pu réprimer plus longtemps à cette manifestation soudaine de fermeté dans celle qu'il croyait être la plus faible de ses victimes. En même temps, il lança contre elle son tomahawk et la hache, fendant l'air sous les yeux d'Hayward, coupa quelques boucles flottantes de la chevelure d'Alice et s'enfonça profondément dans l'arbre, un peu au-dessus de sa tête. À cette vue, le désespoir mit Duncan hors de lui. Réunissant toute sa vigueur, d'un effort violent, il brisa ses liens et se précipita sur un autre sauvage qui se préparait, en hurlant, à frapper un coup plus sûr. Ils se saisirent et tombèrent l'un sur l'autre. Le Huron, dont le corps presque nu offrait peu de prise, échappa vite à l'étreinte de son adversaire. Il se releva et lui appuya un genou sur la poitrine avec la pesanteur d'un géant. Déjà, Duncan voyait briller en l'air le fatal coutelas lorsqu'il entendit au-dessus de sa tête un sifflement, accompagné plutôt que suivi par l'éclatante détonation d'une arme à feu. Tout à coup, il sentit sa poitrine soulagée du poids qui l'oppressait, et l'Indien roula sans vie à côté de lui. »